Donc merci à tous et à toutes pour être là. Deux petits commentaires avant de commencer. Donc, comme l'a bien dit Marielle, le titre de ma conférence a changé. Je commence toujours en croyant que je vais parler de quelque chose et à la fin, je parle d'autre chose. Donc voilà. Et l'autre point est que je vais toucher plusieurs éléments dont nous avons déjà commencé à discuter hier. Donc on va pouvoir justement continuer dans cette discussion. Donc voilà, je commence. La participation des femmes à la violence politique continue à être perçue aujourd'hui comme une transgression. Une transgression qui surprend, qui questionne, qui crée un malaise, mais aussi, et je vais en quelque sorte transgresser moi-même en le disant de cette manière, une transgression qui donne parfois l'espoir. Cet espoir n'est pas en lien avec une quelconque valorisation de la violence, mais plutôt résulte de la présomption que l'acceptation et même la promotion d'une telle transgression par une organisation quelconque puisse être indicatif d'une certaine transformation des rapports sociaux genrés au sein de cette organisation. Autrement dit, parfois on perçoit la participation des femmes à la lutte armée comme étant la résultante ou le produit d'une transformation, ou tout au moins l'indice d'un projet politique de transformation des rapports sociaux qui sont à la fois genrés et genrants. Donc ces questions de transformation ou de reproduction des rapports sociaux, des libérations ou d'oppression des femmes par la lutte armée sont extrêmement complexes. En tant qu'analyste, nous devons soupeser entre discours et pratique, entre discours public et discours privé, entre pratique publique et pratique privée, entre rapports personnels et rapports politiques, mais aussi entre vécu personnel et regard extérieur, notamment celui de l'analyste, et finalement entre intention et réalité. C'est ce que les acteurs ou l'organisation veut et c'est ce qui finalement se donne. Donc qu'est-ce qui doit primer dans notre analyse pour déterminer s'il y a transformation ou reproduction, libération ou oppression? C'est plutôt une question, je n'ai pas de réponse. Des surcroît, l'analyse de cette question requiert qu'on réfléchisse sur d'autres points. Donc doit-on se limiter uniquement à l'organisation et l'effet sur ses membres? Où doit-on regarder l'effet que cette participation a sur le reste de la société? Comment doit-on concevoir l'organisation à laquelle on s'intéresse et la société de laquelle elle émerge? Comment tout homogène ou plus ou moins bien articulé, ou au contraire comme un bricolage pas très cohérent des parties hétéroclites? Aussi, comment gère-t-on le passage du temps dans notre analyse? Et finalement, comment tenir compte des multiples zones géographiques représentant des caractéristiques fort diverses? Donc dans le cas de Sendero Luminoso, la réflexion sur ces points est particulièrement importante puisqu'il s'agit d'une organisation ayant une très longue histoire qui commence à la fin des années 60 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc pour ça, ma réflexion sur le passage du temps, comment on analyse ça. C'est une organisation dont les territoires d'action sont variés, urbains, ruraux, semi-urbains, semi-ruraux, dans des régions différentes, on parle de la côte, de la montagne, de la jungle, et j'en passe. Aussi, il s'agit d'une organisation dont le niveau de contrôle exercé sur ces multiples territoires est tout aussi très varié. On passe des zones libérées, sous le contrôle de Sendero, des quartiers rouges, ou à des zones complètement sous le contrôle de l'État et des forces armées. Finalement, Sendero a un nombre très élevé de membres, l'estimé le plus conservateur est des 3000 membres dans les années 90. Ces membres présentent des caractéristiques sociodémographiques très diverses, ayant des idées, logiques, perceptions, valeurs, histoires, projets et envies tout aussi différentes. Donc le point de départ de ma réflexion est le constat que le vécu des femmes senderistas est disparate. Disparate selon les femmes, donc si on parle à une femme ou à une autre femme, mais disparate aussi pour la même femme. Donc quand on parle aux mêmes femmes, on voit ces contradictions. Elles racontent des expériences de libération et d'oppression, des transformations des rapports sociaux traditionnels et des reproductions de ceux-ci. Certains font une évaluation positive de leur implication, tandis que d'autres expriment du regret, des insatisfactions ou encore des sentiments contradictoires. Donc, une première manière de rendre compte de ces contradictions est par la convergence, presque on pourrait dire hasardeuse, d'une série d'éléments ou de facteurs tels que les personnes impliquées, l'endroit où l'on se retrouve, le contexte sociopolitique, le type de cellule à laquelle on appartient, le moment particulier du conflit, etc. Cette approche que l'on peut caractériser des micro-sociologiques prend des clichés instantanés pour analyser les expériences des femmes comme étant la résultante d'une combinaison particulière de ces multiples facteurs. Dans ces cas, les analyses sont circonscrites aux caractéristiques des cas étudiés et on ne peut pas vraiment généraliser à d'autres cas, sauf ceux qui portent des caractéristiques similaires. Donc, sans vouloir négliger ni minimiser l'apport de ce type d'analyse, c'est ce que m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la toile de fond. Autrement dit, je porte un regard macro-sociologique afin de comprendre comment la production idéologique de Sendero sur le genre crée les conditions qui rendent possible cette diversité d'expériences. Et je dis bien cette diversité d'expériences, car ma prémisse est que la toile de fond idéologique crée un cadre qui ouvre des possibilités tout en les circonscrivant. L'idéologie crée en quelque sorte un répertoire des possibilités. Et donc les expériences possibles ne sont pas infinies. Il y a un éventail délimité par l'idéologie elle-même. Donc je vous propose donc d'analyser la production idéologique comme constituant le cadre des références qui guide les discours et les pratiques de l'organisation et de ses membres, surtout puisque nous traitons ici d'une organisation à tendance totalitaire dans le sens de Arendt. Ceci nous permet de comprendre certaines pratiques, expériences et vêtements. Et événements, pas des vêtements. Toutefois, puisque les membres, au chagrin de l'organisation, ne sont pas des récepteurs vides et que Sendero n'a pas été capable de neutraliser les effets du contexte, la production idéologique ne va pas avoir le même résultat sur tous et partout. Ainsi, lorsqu'on combine le bagage individuel, les éléments contextuels et la production idéologique, on se retrouve avec des individus ayant des discours et des pratiques fort divergentes, qui s'auto-constituent de diverses formes et qui conséquemment vivent leurs expériences de manière parfois très différente. Le plan donc est de commencer par une discussion sur la production idéologique des Sendero, pour par la suite décrire les pratiques générées par cette production idéologique, tout en m'attardant sur comment ces pratiques contribuent à une réaction sociale dichotomique. Et je vais conclure en revenant brièvement sur mon point de départ, comment la production idéologique du genre permet de rendre compte des expériences tellement disparates des femmes. Donc cette analyse est basée sur des documents officiels produits par Sendero, qu'ils soient de nature idéologique ou plutôt artistique, ainsi que sur des témoignages répertoriés à travers des entrevues que j'ai réalisées, mais aussi d'autres chercheurs et des journalistes. Donc, pour l'idéologie, la production idéologique du genre, dès sa création à la fin des années 60, Sendero démontre une préoccupation pour la question du genre. Avant la création officielle de cette organisation, ses précurseurs créent en 64 la fraction féminine du Front étudiant révolutionnaire. En 70, Sendero, déjà constitué en tant que parti, crée le mouvement féminin populaire, qui travaille auprès des femmes pour améliorer leurs conditions de vie de manière concrète, tout en analysant les problèmes auxquels elles sont confrontées comme émanant de leur dépendance économique auprès des hommes. En 73, le Movimiento Femenino Popular publie un programme sur les droits des femmes et en 75, une analyse de la condition féminine au Pérou. Cette analyse cimente la position idéologique de Sendero concernant la question du genre. À partir de ce moment-là, de nombreux documents continueront à être produits sur les femmes ou adressés aux femmes selon leurs conditions d'ouvrières, paysannes, professionnelles. Donc on va voir des articles des journaux, des documents publiés pour la femme paysanne, la femme ouvrière, la femme pauvre, la femme au foyer, etc. De plus, la formation des nouveaux membres inclura une formation idéologique sur le genre. Ça fait partie de leur formation politique, qui fera l'objet des discussions politiques dans le cadre de leur formation politique continue. Autrement dit, il y a une formation de base, et par la suite, quand on continue avec les rencontres politiques, le genre continue à être débattu, discuté. Donc cette production idéologique est accompagnée par une production iconographique, où l'on retrouve les femmes non seulement présentes, mais en première ligne et jouant un rôle actif. Donc, à guise d'exemple, une image qui commémore la cérémonie de clôture de la première école militaire présente trois femmes dans la première rangée, donc en première file, recevant les félicitations d'Abimael Guzmán, le chef du parti. Il y en a plusieurs représentations de ce type-là. Cette production idéologique est importante car elle était inexistante dans d'autres organisations de la même époque en Amérique latine et en Europe. On en a touché là-dessus hier. Certaines prennent ceci comme une idée d'une préoccupation sincère de Sendero sur le sujet. Cette préoccupation serait liée à la présence des femmes au sein du parti dès sa création formelle en 1969. D'autres, par contre, l'analysent comme une stratégie de recrutement par une organisation en manque de membres dans une période où le mouvement féministe commence à prendre force. Quelle que soit la raison, le fait que la question du genre soit mise sur la table par Sendero est en soi notable et aura des effets concrets importants. Donc maintenant, je vais m'attarder de manière très schématique sur les piliers idéologiques de Sendero sur la question de genre. Et vous allez reconnaître certains auteurs dans ce que je dis, mais tous les auteurs, je pense. Premièrement, premier pilier, la libération des femmes se donne à travers la libération du prolétariat, et ceci sous la direction du parti. La société n'est donc pas divisée selon le sexe homme-femme, mais selon les classes sociales. Marx, Engels. Les femmes et les hommes sont un produit social et non pas naturel. Par conséquent, leur transformation exige la transformation de la société. Les hommes sont aussi concernés et doivent s'impliquer. Le féminisme est une thèse bourgeoise. Les femmes ne peuvent pas lutter ensemble, car elles sont soit réactionnaires, centristes ou révolutionnaires. Le féminisme vise ainsi à diviser le prolétariat, à endormir les femmes et retarder leur émancipation, ainsi qu'à désamorcer la force révolutionnaire des femmes, en affirmant que parce qu'elles donnent la vie, elles sont incapables de tuer. Maria Tei. Le succès de la révolution dépend du degré de participation des femmes, Lénine, et les femmes représentent la moitié du monde qui soutient le ciel, et donc elles doivent faire partie de la révolution. Mao. Voilà. Une analyse détaillée de cette production idéologique s'avère décevante. Donc même si on a un petit peu d'espoir, après quand on regarde, qu'est-ce qu'il y a, c'est très décevant pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y a aucun développement de l'idéologie à travers le temps. Les contenus et la forme sont exactement les mêmes en 1975 que dans un document produit en 2005 ou encore aujourd'hui. Deuxième critique, il s'agit d'une production restreinte dans son contenu, puisque ce sont toujours les mêmes idées qui sont répétées, peu importe le public ciblé. Okay? Et c'est les cinq idées que je vais présenter, et on n'y va pas plus loin. Donc, malgré l'apparence d'une analyse particulière de la situation des femmes selon leur statut socioprofessionnel, on retrouve en fait le même discours. Donc, même dans les publications sur la femme professionnelle, la femme ouvrière et tout ça, on retrouve exactement le même discours. Il n'y a même pas une adaptation du vocabulaire ou de la formulation selon des types de publics adressés. On parle aux professionnels comme aux paysans, comme aux pauvres. Il s'agit d'une analyse et une proposition simpliste et qui se résume finalement aux idées développées par Marx, Engels, Lénine, Maria Tei et Mao. Il s'agit aussi d'une position réductrice où les genres équivaut à femmes et où il n'y a aucun questionnement sur les catégories homme-femme ni féminin-masculin au-delà du fait qu'elles ne sont pas naturelles et qu'elles sont moins importantes que la classe. On n'y retrouve aucune réflexion sur comment aura lieu la transformation des relations d'oppression. On n'identifie pas des plans d'action, ni l'identification concrète des problèmes, résistants, défis qui devront être surmontés. Tout ce qui est dit sur le sujet est que cela sera déterminé par le Movimiento Femenino Popular, le moment venu, sous la direction du parti. Donc c'est une idéologie qui vise à rediriger les énergies des femmes, leur force de travail, leur vie personnelle, leur intellect et leurs émotions à la lutte contre le capitalisme, l'impérialisme. La femme est pensée ici, tout comme l'homme, en tant qu'outil de la révolution, comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Donc maintenant, qu'est-ce que cette production idéologique engendre en termes de pratiques concrètes ? Premièrement, la production idéologique de Sendero sur le genre donne lieu à un recrutement actif des femmes. Environ 40% des membres sont des femmes. Ce recrutement actif est accompagné d'une participation qui remet en cause le rôle traditionnel attribué et la position subalterne dans laquelle les femmes se retrouvent normalement. Donc, les femmes participent autant aux activités militaires que politiques, administratives et des supports. Elles sont des cadres militaires et politiques, et elles ont la responsabilité de mener des opérations militaires, de propagande, de recrutement, de lever des fonds, etc. Ce qui surprend souvent le plus est qu'elles s'occupent des postes de direction du parti. Donc, au moment de l'arrestation d'Abimael Guzmán, la direction du parti était composée par 56% des femmes. Donc, les rôles joués par les femmes sont publicisés et mis de l'avant discursivement, contrairement à c'est ce qu'on avait dit hier, qu'on le cachait. Donc, ici, c'est mis de l'avant discursivement dans des textes qui les honorent, donc des poèmes, des chansons, les ce qu'on dit des nécrologies ?
Oui.
OK. Ainsi qu'à travers des iconographies qui dessinent les femmes, qui les montrent avec les armes, en train de donner le tir des grâces, donc en train d'exécuter des personnes, menant des jugements populaires, participant à des débats, participant à la formation idéologique des camarades, donc donnant des cours, et résistant aux forces de l'ordre. Donc certains analystes parlent de leur présence au poste de direction politique comme étant liée au fait que les femmes ne remettent pas en question Abimael, ou car Abimael, donc le chef du parti, préférait être entouré par des femmes plutôt que des hommes. Les femmes sont douces, sont plus sympas que d'être avec plein de mecs. Donc d'autres l'expliquent par le niveau d'engagement et presque une dévotion malsaine de la part des femmes, en parallèle avec une volonté de montrer les femmes dans une position de pouvoir, même si elles ne l'ont pas véritablement, car le pouvoir est uniquement aux mains d'Abimael Guzmán. Donc une espèce de charade, regarder les femmes, et finalement elles sont aucun pouvoir. Tandis que d'autres l'analysent comme la résultante de la capacité idéologique et militaire des femmes. Donc on voit bien comment le regard du chercheur, leur conception de l'organisation et leur positionnement concernant le rôle des femmes jouent dans l'interprétation de ces faits. 56% sont des femmes. Quelle que soit l'explication retenue, ce qui importe est qu'il s'agit des pratiques inattendues dans le cadre d'une société très patriarcale comme le Pérou. Ces pratiques mettent en défi les conceptions traditionnelles puisque les femmes sont mises de l'avant en tant qu'acteurs politiques et militaires légitimes. De plus, ces pratiques ont des effets concrets sur des personnes en chair et en os, qui peuvent du coup remettre en question leur propre vision d'eux-mêmes et des autres. D'un côté, il y a des femmes qui jouent des rôles qui étaient inimaginables pour elles, qui sont en position de donner des ordres aux hommes et qui ont une voix qui leur est reconnue. De l'autre côté, des hommes doivent recevoir et obéir aux femmes, doivent les écouter et respecter, doivent travailler avec elles. Donc, une autre pratique qui remet en question les rapports sociaux traditionnels est la politique établie concernant les relations hommes-femmes. Le parti ordonne le maintien des relations respectueuses et la reconnaissance de la valeur des femmes. Et c'est dans ces termes-là. Le parti punit non seulement les hommes qui frappent et violent les femmes, qu'ils soient membres de l'organisation ou pas, mais aussi les hommes, donc le parti punit aussi les hommes et les femmes qui entretiennent des contacts physiques et ou sexuels sans l'autorisation du parti. En fait, le parti régule la sexualité des combattants. Aux hommes, on leur donne des préservatifs. On leur donne pour 6 mois 6 préservatifs. Ils donnent des préservatifs. Et des signes, ça ne vous surprendra pas, des camarades femmes qui, en solidarité avec leurs camarades hommes, doivent avoir des rapports sexuels avec eux. Elles peuvent choisir avec qui, mais c'est attendu qu'elles doivent participer. Il importe de souligner donc que la sexualité est ainsi pensée comme un besoin des hommes, mais non pas des femmes. On ne retrouve pas des témoignages où des camarades hommes ont dû répondre aux besoins sexuels des femmes. La sexualité des femmes est ainsi comprise comme étant circonscrite à des relations sentimentales. Sur ce point, il existe également une réglementation. Donc il y a des règles qui établissent la procédure à suivre pour pouvoir initier une relation de couple. Cette relation doit être autorisée par les cadres et doit être assujettie aux besoins de la révolution. Ici, un couple peut être forcé de se séparer à n'importe quel moment. Une autre réglementation existe en ce qui concerne la maternité. Certaines conditions doivent être respectées pour que les femmes puissent tomber enceintes et toute grossesse non autorisée peut entraîner une punition. Donc, les cadres ou responsables décident ensuite si la grossesse doit être terminée ou si elle peut être menée à terme. Finalement, suite à la naissance, le parti peut ordonner aux femmes à n'importe quel moment d'abandonner l'enfant. Il y a des femmes qui ont pu garder l'enfant pendant 3-4 ans et après, l'organisation les exigeait de les abandonner. Donc, cette gestion de la vie privée et sentimentale des membres est en quelque sorte inattendue pour plusieurs raisons. Premièrement, même si dans la société il y a un discours sur l'égalité homme-femme et des lois qui condamnent des violences faites aux femmes, leur application est rare. Le fait qu'une organisation dite violente, dans les faits violente, condamne la violence faite aux femmes peut paraître aux yeux de certains un non-sens. De surcroît, même si dans cette société patriarcale la sexualité des femmes est contrôlée par les hommes, il peut surprendre que ces contrôles s'appliquent également aux hommes, au moins en théorie. Finalement, l'avortement et l'abandon des enfants sont considérés comme des gestes contre nature. Je vous rappelle que l'avortement est illégal au Pérou. Et l'abandon des enfants sont considérés comme des gestes contre nature de la part des femmes et sont mobilisés par conséquent pour remettre en question leur statut des femmes. Le dernier point que je vais traiter concernant les pratiques qui découlent de l'idéologie sendérista est par rapport à la pratique de la féminité. Le parti interdit la pratique d'une féminité qu'il qualifie de bourgeoise et que l'on retrouve fréquemment dans les milieux urbains et semi-urbains. Cette féminité correspond à un modèle prôné par la classe moyenne. Donc, je vous rappelle, je vous situe un petit peu les années 80, donc les cheveux, la jupe, les robes, les talons hauts, les bijoux, la coiffure, tout le déguisement. Toutefois, le parti ne propose pas des remplacements à ces modèles. Il ne propose pas un modèle de féminité alternatif. Il se limite à condamner celui considéré comme bourgeois et à voir les manifestations physiques de la féminité comme étant un outil qui doit être mis au service de la révolution et donc modélé selon les besoins idéologiques et militaires de celle-ci. Par exemple, certains affirment que cette féminité bourgeoise était cultivée et mise de l'avant pour séduire les membres des forces de l'ordre afin de soutirer l'information ou de les distraire lors des opérations militaires. Cette soumission de la féminité aux besoins de la révolution fait partie du cadre idéologique plus large qui exige l'effacement de l'individu et la soumission complète de tous les membres à la volonté du parti. Dans une société où l'habillement masculin est perçu comme neutre ou à l'état naturel et la manifestation de la féminité se base sur des ajouts, donc justement les cheveux, le maquillage, les bijoux, un papillon, un blondinet, quelque chose qu'on ajoute pour le rendre visible. Donc dans ces contextes-là, l'élimination de ces ajouts devient très visible. Il s'agit d'enlever les caractéristiques et attributs couramment associés au fait d'être femme. Donc la conséquence aux yeux de la société, c'est l'effacement de la femme chez la militante ou combattante. À cet égard, le questionnement de la nature féminine des femmes sendéristas est une préoccupation presque fétiche qui apparaît dans les discours des journalistes, professionnels, membres des forces de l'ordre, de la population et même des chercheurs. Cette préoccupation résulte des multiples transgressions auxquelles les femmes participent, telles que leur implication dans la politique, leur utilisation de la violence de manière instrumentale, leur disposition à avorter ou abandonner leurs enfants selon la volonté du parti, mais également par leur renoncement à une pratique de la féminité bourgeoise. Les discours sur les femmes sendéristas produisent donc deux archétypes. Le premier archétype est celui de la non-femme, la femme monstre ou la femme homme. C'est celle dont on questionne sa féminité, son statut de femme, son identité de femme. L'emphase est mise sur sa participation active à des actions armées violentes, donc on parle que ça, de ça. On les décrit comme ayant une attitude froide, qui dégage de l'amertume et qui projette un rictus facial qui accentue son apparence physique masculine. Cette femme est motivée par la vengeance et le ressentiment. Ça, c'est l'archétype 1. Le deuxième archétype est celui de la femme qui correspond physiquement à un certain type de féminité reconnue et acceptée par la société. Cette femme ne voit pas son identité ni sa féminité remise en cause. Au contraire, son apparence féminine la rend, et je dis apparence féminine d'une certaine féminité, la rend ipso facto porteuse d'autres caractéristiques dites féminines. Cette femme-là est présumée de jouer un rôle de support, un rôle passif, et d'avoir été manipulée par les sentiments, donc la femme citadine amoureuse dont on a déjà parlé, et c'est ce qui est nouveau, ou par son manque d'éducation. Et là, on trouve la femme paysanne inculte. Donc, la première femme est prééminente dans la représentation sociale, tandis que la deuxième n'émerge que lorsqu'on veut renforcer la normalité de la première, précisément en la juxtaposant à la normalité de la deuxième. Ces deux représentations font état et produisent des normes sociales qui dénient aux femmes la possibilité d'un engagement politique, de l'utilisation de la violence de manière instrumentale et la production de manière alternative d'être femme. Si on n'est pas la femme bourgeoise ou bon, la femme paysanne avec ses jupons, on n'est pas femme. Donc on ne peut pas produire de manière alternative des féminités. Donc pour conclure, je reviens à la question sur les expériences disparates. Au sein des senderos, les femmes ont d'un côté accès à des rôles politiques et militaires ainsi qu'à des postes de responsabilité et des directions qui ne sont pas accessibles aux femmes dans le reste de la société. Elles vont avoir le droit de prendre la parole et d'être écoutées. Leurs opinions vont être prises en compte. Elles vont établir des relations de considération et de respect avec leurs camarades. Elles ne seront pas traitées simplement comme des femelles inférieures. Et les hommes n'auront pas le droit de les toucher, soit en termes de violence sexuelle ou violence physique. Toutefois, à ces expériences, se juxtaposent d'autres expériences, des expériences de violence, d'oppression, de reproduction des rôles et rapports traditionnels. À cet égard, on voit comment, malgré des pratiques remettant en cause le modèle traditionnel, les discours qui l'accompagnent réédifient l'ordre social. Je vous donne comme exemple, au moment de l'octroi des armes aux femmes, les femmes se font dire « Bon, voilà ton arme, respecte-la comme à ton mari. » Et aux hommes, ils reçoivent leur arme, leur mitraillette, on leur dit « Protège-la comme à ta femme. » Donc, et pour moi, c'est un moment vraiment de la contradiction totale. Peut-être plus surprenant est la violence physique et sexuelle que les femmes vivent de la part des camarades et de leurs supérieurs. De plus, la sexualité des femmes est mise au service de la révolution, séduction, réponse aux besoins des camarades, et se retrouve sous contrôle du parti, donc demande d'autorisation pour être en couple, demande d'autorisation pour tomber enceinte. Leurs propres besoins sexuels sont ignorés ou considérés comme inexistants. Finalement, même s'il n'y a pas une consigne claire sur la manière correcte de pratiquer leur féminité, certaines d'entre elles sont confrontées à des censures concernant leur manière de se présenter en tant que femme. Donc, l'idéologie produite par Sendero est comme un acte de magie. Elle met les femmes de l'avant tout en les faisant disparaître en même temps. En fait, le projet de Sendero est un projet anti-humaniste où les hommes et les femmes ne sont que des moyens pour la réalisation de l'histoire avec le grand H. Ainsi, la production du genre par Sendero est paradoxale puisqu'on retrouve à la base une idéologie qui, dans son application, libère les femmes et les rend des acteurs politiques et militaires légitimes, mais qui, simultanément, entrave leur liberté, les efface, les contrôle et les étouffe. Voilà, merci.